Whatabaga!
Objection!
Et tout de suite sur Resto Geek, votre émission d'actualité jeux vidéo, Burger Games.
Et bonjour, bonsoir à tous dans ce deuxième épisode de Burger Games. Je suis en présence de mes deux acolytes, Nateez.
Salut.
Et Tipo, qui cette fois-ci ne présentera pas.
Du coup, vu que je présente plus, on me présente en dernier, quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi, cette émission.
Mais attends, je ne sais même pas présenter.
Et bien sûr, moi-même, Stalas, qui du coup remplace Tipo en tant qu'animateur principal pour cet Burger Game épisode 2.
Avec... Ah, pour tous les Burger Games, ça, moi, c'est bon, j'ai posé ma dème. Hein.
Ok, donc pour les prochains Burger Games, merci de m'accueillir avec applaudissements. Alors, de quoi allons-nous parler dans cet épisode de Burger Game numéro 2? Alors, un petit jeu sorti sur portable, iOS et Android, Harry Potter Wizard Unit. Ensuite, on va partir sur le petit Dragon Quest Builder 2, dont on va discuter un petit peu. Après, nous allons voir quelques sorties remarquables, quelques meilleures sorties, enfin, quelques jeux dont on attend la sortie, à savoir... Fire Emblem Free House, ensuite Blazing Chrome, et enfin Wolfenstein Wolfblood. Et juste après, nous allons vous parler de quelques sorties remarquables de ce mois de juillet. Et pour finir, nous allons vous parler de quelques nouvelles, grosses ou petites, ainsi que quelques easter eggs que nous avons découverts il n'y a pas si longtemps, ainsi qu'un petit spin-off. Dont on laissera Nathalie se parler de sa petite expérience sur CTR dont nous avons parlé lors du précédent Burger Games. Je propose de parler d'un des univers geek les plus connus, en commençant par Nathalie.
Des phénomènes inexpliqués continuent de se produire dans le monde entier.
Vous avez vu ce qui se passe ?
Harry Potter Wizards Unite, à télécharger maintenant.
Donc, comme vous l'avez compris, on va parler de Harry Potter Wizards Unite, qui est sorti sur iOS et Android il y a à peu près 2 semaines. Si je me souviens bien, ça date du 21 juin. Et on peut pas tous le télécharger encore, je suis triste. J'ai dû passer par des moyens détournés pour pouvoir vous présenter ce jeu.
Moi, j'ai pu.
Oh, c'est pas bien.
Ah, j'ai des moyens détournés, ou alors j'en parle pas. Donc j'ai préféré prendre les moyens détournés pour en parler.
Bon, moi je pense que c'est ton téléphone qui est pourri, parce que moi j'ai peux y accéder.
Et on t'en remercie d'avoir utilisé ces moyens détournés.
C'est vrai.
Voilà. Donc, créé par les mêmes que Pokémon Go, basé sur l'univers d'Harry Potter.
Donc Niantic.
Niantic, exactement. Donc vous allez vous balader, comme dans Pokémon Go, et récupérer différents objets, différents personnages du monde d'Harry Potter, qui ont été... supprimés du monde de la magie. Il faut les retrouver, les libérer, pour qu'ils reviennent dans le monde magique d'Harry Potter.
Ils ont été supprimés ou volés? J'avais lu voler à un moment.
Je sais pas trop. J'ai eu du mal à suivre. Plus je volais ou supprimais.
Enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait un sorcier qui supprimait tout, qui volait tout, j'en sais rien.
Oh, il y a un groupe de... Alors, si je me souviens bien, c'est un groupe de sorciers qui veut révéler la magie aux humains, ce qui arrange pas les sorciers.
C'est ça. Mais donc, en gros, on va se balader pour retrouver... tous les personnages principaux, tous les éléments style cognard, monstres et autres du monde d'Harry Potter qui sont protégés par des sorts et on doit utiliser différentes puissances de sorts pour pouvoir les libérer.
S-C-E-A-U, hein, bien sûr, sinon c'est un peu ridicule.
S.O.T. c'est pas autre, c'est autre
S-O-T,
chose.
S.O.T. bien sûr, S.O.T. qu'est-ce que tu crois? Et donc, comme dans Pokémon Go, vous vous baladez à la plage d'arène, vous vous retrouvez avec, comment j'appelle ça déjà, des différents manoirs, je crois, où du coup on a différents défis où on doit tuer certains monstres et valider certains défis. Vous avez des auberges, des serres pour récupérer différents ingrédients ou de l'énergie.
Des serres pour les plantes.
Oui, des serres pour les plantes. Okay. En gros, les auberges et les serres ressemblent un peu au Pokéstop et les manoirs où il y a les défis aux arènes.
Okay.
Sur le même principe. Donc c'est assez sympa, mais j'ai quand même un peu de mal à accrocher. Ouais. Ça vaut pas Pokémon
Harry
Go.
Harry Potter ou parce qu'il y a trop de contenu?
Alors, j'adore Harry Potter. C'est pas le problème. Et c'est plutôt, non, c'est que c'est très répétitif. Encore plus que Pokémon Go, dans le sens où y a un élémentaire, il y a un truc qu'on trouve, on doit le libérer. On fait le format du sort, on tapote un peu. Ça y est. C'est toujours pareil. Donc j'attends quand même, je laisse une chance quand même, j'attends d'avancer, de monter de niveau, voir s'il y a des nouvelles choses. J'attends de passer niveau 6, pouvoir avoir une profession par exemple. J'ai vu aussi que maintenant on peut avoir des amis, comme sur Pokémon Go, mais que du coup on pourrait peut-être faire les défis à plusieurs.
Ouais, bah, comme sur Pokémon Go, il faut avoir des amis qui pourraient aller le faire dehors. Quoi. Et quand t'es avec tes amis, t'as pas forcément envie de lancer un jeu mobile.
Exactement. Par contre, si on peut le faire à distance, ça peut être pas mal.
Ouais, j'y crois pas trop.
Et j'y crois pas trop. Donc voilà.
Oui, puis... on va pouvoir fly. C'est super, merveilleux. C'est pas légal.
on avait fait le comparatif. J'avais mis Pokémon Go sur mon téléphone. Elle a mis Harry Potter sur son téléphone. Et puis on a vu que.
C'est la même carte.
Ils se sont pas emmerdés. Hein. Les Pokéstop correspondent soit à un manoir. Non, soit à une auberge, soit à une serre. Et les arènes directement à une auberge. Ils ont juste converti.
C'est ça. Même carte, même endroit, même chose.
Ils ont rajouté beaucoup de contenu et ça a l'air très, très vague, très...
Oui.
Faut s'accrocher.
C'est ça, pour tout récupérer et tout libérer ou faire tous les défis qui sont proposés.
Et là où je suis rejoint sur le côté chiant, je pense que dans Pokémon Go, t'attrapes un Pokémon, bon, à la limite, tu lui mets une baie, mais t'envoies la Pokéball et puis voilà.
Ouais.
C'est que là, faut faire des sorts à chaque fois, c'est très chiant.
Faut le faire précisément pour qu'il soit le plus fort possible pour pouvoir bien libérer l'élément qu'on veut, mais il faut le faire très rapidement aussi. Donc rapidité et précision sur les téléphones ne va pas forcément de pair.
Surtout quand tu marches dehors, on se rappelle de l'accident avec
Pokémon Go. Voilà. Donc voilà, c'est à voir. Je lui laisse une chance, mais bon, ça vaut pas Pokémon Go.
Vous testez, et puis si vous aimez, vous aimez, si vous aimez pas...
Mais bon, c'est Harry Potter quand même. Ah si vous tapez sur votre personnage, il vous fait coucou. Voilà.
Alors j'espère qu'il n'y a aucun bug, parce que ça, c'est le genre de truc que tu fais en fin de développement pour t'amuser.
Ah oui, effectivement, il nous fait coucou. Donc si vous n'avez plus rien à ajouter, moi je propose qu'on passe à la deuxième grande sortie du mois. Enfin, qu'on a qualifié de grande sortie du mois. À savoir... Dragon Quest Builder 2. Alors Stalas.
Dragon Quest.
Alors Stalas, est-ce que tu veux bien nous en parler? Mais bien sûr Stalas, alors allons-y.
Oh putain, quelle erreur de lui avoir donné cette émission. Quelle erreur.
Alors Stalas, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, je te propose Stalas de parler de Dragon Quest Builder 2. Oh, encore un Dragon Quest? Oui, tout à fait, mais je vais arrêter cette voix-là. Alors, Dragon Quest Builder 2, c'est qui sortira, alors qui est édité par nos amis de Square Enix. Donc déjà annoncé, enfin, qui était annoncé depuis un moment et qui a été réannoncé et introduit à l'E3 2019, du mois dernier. Ensuite, comme style de genre, là on aura le droit à un action RPG création en mode open world. Alors en création, je reviendrai plus tard sur un peu ce que c'est. Alors il sortira sur PS4 et Switch, uniquement. Bon, ça ne laisse pas beaucoup de consoles, mais c'est quand même pas mal. Et bien sûr, la date de sortie que tout le monde attend. Non, personne? Okay.
Le 12 juillet 2019, j'attends pas, je la sais déjà.
D'accord, effectivement, elle sortira le 12 juillet 2019, c'est à savoir dans 6 jours, pour les intéressés. Et pour ceux que ça intéresserait, on s'est fait 40 en Europe parce que ça fait 7 mois que c'est sorti au Japon. Je vous raconte rapidement la petite histoire. Alors, attention. Le monde est paisible depuis que Chaos et ses légions sont détruits. Enfin, on l'a cru. Car l'ordre de Chaos est de retour pour continuer à essayer de détruire le monde, mais malheureusement, les descendants d'Elric veillent à ne pas laisser les héritiers de Chaos faire leur sale besogne. Donc, Voilà, vous l'avez compris, en gros, ça va être, on va empêcher des monstres ou des démons ou des humains qui sont alliés à ces monstres et démons de détruire l'univers. Voilà, c'est à peu près pareil dans tous les Dragon Quest. On change pas une équipe qui gagne.
C'est à peu près pareil dans tous les JRPG, tout simplement.
C'est vrai aussi. D'un point de vue graphisme, on retrouve la patte graphique habituelle de Dragon Quest qui est du coup une patte graphique très manga. Alors pour ceux qui savent pas, déjà je sais pas où est-ce que vous avez dormi ces 20 dernières années, mais vous étiez pas dans les jeux, sachant, je suis quasiment sûr, parce qu'en fait les Dragon Quest, les tout premiers Dragon Quest et puis maintenant encore aujourd'hui, ils sont en fait designés par Akira Toriyama. Et si vous me dites que vous savez pas qui est Akira Toriyama, je vous retrouve et puis je vous l'explique.
C'est qui?
Attention, moment Wikipédia de Stalas. Qui est Akira Toriyama?
C'est l'heure de Wikipédia. Wikistalas. Alors Akira Toriyama est un mangaka japonais. Je vais pas vous donner ses dates de naissance parce que j'en ai aucune idée. Alors un mangaka, c'est un auteur de manga et un dessinateur de manga. Et Akira Toriyama a notamment fait deux gros succès. Enfin, moi je préfère d'autres trucs, mais ses deux plus gros succès ont été le Dr. Slump, que peu de gens connaissent malheureusement, mais qui est très drôle.
Non, mais c'est marrant. C'est un manga. C'est dommage parce qu'on le voit dans le deuxième manga dont tu
parles. Ouais, c'est un manga humoristique assez drôle. Je vous le conseille. Et puis le deuxième, qui est Dragon Ball. Voilà, où Akira Toriyama, aimant mélanger ses œuvres, fait aussi quelques clins d'œil entre Dragon Ball et son autre gros manga, Dr. Slump. Voilà, donc c'est un mangaka et qui travaille aussi sur les films de Dragon Ball, ainsi que sur, du coup, les
graphismes des jeux vidéo?
Non. Le character design, le dessin des personnages dans les Dragon Quest. Ouais.
Moi, je ne savais pas que c'était Akira Toriyama quand j'ai joué à la démo du 2. Et quand j'ai commencé à courir, en fait, tu le vois courir en fait comme Son Goku sur la pointe des pieds en mettant les bras sur le côté. Et là, tu fais Dragon Ball.
Ah, et puis,
après, tu vois que c'est Akira Toriyama. Tu fais
la coupe de cheveux.
Ouais, voilà.
La coupe de cheveux. Et souvent reprise des fois, donc ça peut vouloir dire, mais pas tant que ça, tu vois.
Ouais, enfin, là,
elle ressemble énormément, mais ça peut comme ça ne peut pas. Quand tu le vois courir, là, tu fais... Ah ouais, quand même.
Bah, si.
Pour ceux qui veulent une idée, on a posté sur Insta une photo du personnage qu'on a testé. Tout à fait. Les cheveux rouges en l'air, façon Dragon Ball.
Et puis sinon, tu peux regarder les anciens qui sont sortis, je sais plus, c'est Heroes, je crois. Dans les Heroes, tu vois très bien la patte graphique d'Akira Toriyama. Juste en regardant le boîtier du disque.
Mais disons que ça me faisait penser un petit peu, et puis quand j'ai vu courir, ça a fini d'achever ma supposition.
Ouais, voilà. Alors, on va revenir un petit peu au jeu, hein. Ouais. Je vais juste vous parler rapidement du gameplay, parce que moi, il y a une démo qui est sortie en fin juin, je crois que c'était le 26, sur PS Store et
Nintendo Store.
eShop, même. Donc moi, ce que j'ai retenu sur le gameplay, c'est que maintenant, ça se passe dans un open world, alors que le 1 était dans 4 îles différentes. J'ai pas joué au 1, donc je pourrais pas le dire. Ensuite, c'est un Minecraft-like. Donc en fait, vous allez ramasser des ressources pour construire armes, armures, véhicules. Alors les ressources, c'est du bois, du fer, de la boue, wow. Voilà, etc.
Minecraft, quoi. Voilà.
Je pense que tout le monde connaît Minecraft.
Ouais, là, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas, mais voilà, c'est ça, c'est ce genre. Apparemment, il y aura aussi une gestion des PV et de la nourriture, bah, comme dans tous les JRPG. Et aussi la... Alors, apparemment des temps de chargement plus courts que le premier. Je sais pas, j'ai pas joué au premier, mais à ce que j'ai vu, apparemment il serait plus court. Et.
Ouais, d'un autre côté, si t'es un open world.
Ouais, c'est mieux que ça soit plus court. Logique. Et ensuite, apparemment, la grande nouveauté. Enfin, peut-être pas nouveauté, mais en tout cas, un bon plus dans le gameplay, c'est la possibilité de bouger la caméra et de passer soit en mode FPS, ça veut dire first person, donc à la première personne. Soit être plutôt proche de votre personnage, mais sans passer à la première personne, soit éloigné, ce qui, à mon avis, sera plus pratique dans certaines conditions. Je pense que Tipo en parlera mieux, puisque Tipo a gentiment testé ce jeu en démo.
Ouais, pour le coup, la caméra, j'ai trouvé hyper cool. Enfin, ça faisait très bizarre, en fait, tu pouvais l'avoir proche ou très loin, mais au niveau du contrôle, ça passait tout seul. C'était bizarre, parce que des fois, ton personnage avançait tout seul, et puis tu te restais loin... Mais tu te rapprochais, puis c'était bon, avec la caméra. Donc, pas choquant et plutôt pas mal. J'ai pas testé le FPS, je savais pas qu'il y avait ça, qu'on pouvait être en première personne, mais peut-être, écoute.
Moi j'avais vu.
Il est dans la démo, ils le disent pas.
Moi j'avais regardé un gars qui faisait la démo et justement l'un des premiers trucs qu'il a fait, c'est de regarder la caméra et justement il est passé en FPS. Je crois que c'était une touche pour passer en FPS, je sais plus laquelle par contre.
Ouais, peut-être que sur la Switch il suffit de cliquer sur le bouton de la caméra, peut-être. J'ai pas testé.
Donc rien d'autre pour toi ?
La démo est sympa parce que je pense que tu commences comme le jeu. Alors vous avez une espèce de l'intro, comment ça s'appelle, le tutoriel qui vous raconte un petit peu aussi l'intro du jeu et un peu ce que vous a dit Stalas en fait sur l'intro, sur comment ça se passait. Et après vous terminez dans la démo, vous terminez dans le monde open world et à partir de ce moment-là, ce qui vous est dit très directement, c'est que la sauvegarde ne sera pas prise en compte pour le jeu. Donc toute l'intro, vous n'aurez pas à la retaper si vous l'avez fait dans la démo. Mais tout le reste, parce que possiblement, vu que c'est une démo, tout n'est pas finalisé, etc. Vous devrez le recommencer. Donc c'est très bien pouvoir jouer un petit peu à la démo. Mais vous n'aurez pas à vous retaper le tutoriel qui se trouve est plutôt sympathique. Après, vous pourrez toujours le recommencer si vous avez besoin. Mais sans plus, j'ai pas joué au 1. Il me semblait effectivement que la caméra n'était pas contrôlable comme ça. Donc ça fait plaisir de pouvoir la contrôler, pour le coup.
Voilà, moi je pense que si jamais je le trouve en occasion, je l'achèterai juste pour le fun, pour y jouer un petit peu, c'est vrai que c'est sympa. Et pour ceux qui voudraient se lâcher dès la sortie, c'est le 12 juillet, à savoir dans 6 jours. On a parlé de... Bon, c'est un jeu qui sort sur Switch, je propose qu'on reste sur la Switch et qu'on parle de Fire Emblem Three House. Tipo, je crois que c'est toi qui voulais en parler.
Ouais, Fire Emblem Three House. Alors... Est-ce que j'ai besoin de présenter Fire Emblem pour tous ceux qui connaissent ? C'est un gros jeu RPG, grosse licence Nintendo. Il y a même eu, ça fait même partie des 3 premiers jeux Nintendo qui sont sortis sur téléphone, si je dis pas de bêtises. Mario, Fire Emblem Warrior. Non, si c'est ça, je crois.
Je crois pas que tu te gourres.
Et je sais même plus lequel l'autre. Enfin voilà, si Pokémon Go, mais c'est pas vraiment Nintendo. Enfin voilà.
Niantic, c'est pas Nintendo.
Donc ça sort exclusivement sur la Switch le 26 juillet 2019, donc à la fin du mois de juillet. Si vous avez posé vos vacances au mois d'août, vous pourrez en profiter pleinement. Alors en gros, c'est bizarre parce que quand on parlait des maisons de Harry Potter, ça me faisait penser un petit peu à ça. Parce que le titre s'appelle Fire Emblem Three House. Ça, c'est un truc que vous avez gagné avec Stalas sur la présentation, c'est que les noms en anglais, ils sont mieux prononcés.
Des fois, seulement, des fois. Je suis pas très anglophile.
Donc, en fait, Fire Emblem, 3 maisons. Donc, en gros, vous allez pouvoir jouer à Foldland, Foldian, je sais plus. C'est un peu compliqué, Foldland, je dirais. Et vous allez vous retrouver dans une contrée où l'église de Cérose exerce une grande influence sur ses terres et ses habitants. Vous allez contrôler votre personnage principal qui devra combattre sur le champ de bataille mais également se déplacer enfin, pour interagir, bref, un RPG, enfin, voilà. Rien de bien, bien nouveau. Et vous pourrez choisir entre 3 maisons. Aigle de Jet.
Oui.
Lion de Saphir et Cerf d'Or, Cerf l'animal.
Vous avez le choix entre... Cerf d'aigle, griffon d'or bizarre et Poussoufle.
Donc encore plus comme Harry Potter puisque c'est dans un établissement où vous allez pouvoir enseigner à une des 3 maisons la magie, les armes, etc. En plus de tout ce qui est histoire. Donc voilà, un Fire Emblem. Si vous êtes fan des Fire Emblem, vous l'achèterez quoi qu'il arrive. Sinon, c'est très sympathique de pouvoir retrouver un Fire Emblem sur Switch, autre que Fire Emblem Warrior, parce que je crois qu'il est aussi sorti sur Switch alors que c'est le jeu mobile. Peut-être que je me laisserai tenter, j'ai toujours pas commencé Fire Emblem.
Tu peux.
Ouais, voilà.
Ils sont cool.
Ils sont cool, mais il faut du temps et le temps c'est compliqué. Mais voilà.
Oui.
Mais voilà, rien de plus à dire à part que c'est toujours très joli et j'aime toujours pouvoir voir que dans Fire Emblem ça a toujours des cinématiques hyper jolies. Voilà.
D'accord. C'est vrai que moi, les Fire Emblem, je les connais que grâce à la licence des Super Smash Bros. Et comme je suis un grand fan de RPG, c'est vrai que c'est toujours un RPG qui m'a plutôt intéressé pour les histoires.
Intrigué.
Non, intéressé. pour les histoires, et c'est vrai que j'ai jamais pris le temps d'y jouer. Et en plus de ça, j'avais pas les consoles pour y jouer, eh, pas de chance. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'il est en lien avec les précédents, ou il sera totalement séparé? Ou peut-être Nighties a une réponse? Les néophytes comme moi qui aimeraient commencer.
J'ai pas de réponse. Parce que
j'ai pas de réponse non plus, mais après, ça reste l'univers.
Ouais, ça reste l'univers. Après, sur certains Genshin Fire Emblem, si je ne dis pas de bêtises, il y en a un ou deux qui étaient reliés, mais pas forcément tous, donc à voir.
Non, je pense que c'est plus peut-être un peu... Enfin, c'est dans l'univers, mais...
C'est dans l'univers, un peu comme Final Fantasy, quoi. C'est l'univers Final Fantasy, change d'être relié, là, ça doit être à peu près la même chose.
Ok, donc pour... pas... les néophytes peuvent très bien commencer par cela et puis s'intéresser à d'autres, donc.
Oui.
Ouais.
Oui.
Ok, super.
Ouais, c'est encore moins relié que Wind Waker, Photomorglas et Spirit Tracks, par exemple.
Bah, je propose à ce qu'on passe sur la deuxième meilleure sortie du mois... que je vais vous présenter. C'est à l'instant encore, mais oui, ta gueule. Pardon.
Oh mon dieu. Quelle erreur j'ai fait.
On les garde tous, là.
Alors, j'avais envie de vous parler d'un petit jeu d'arcade qui sort sur... Enfin, je sais pas si c'était à la base un jeu d'arcade, mais ça y ressemble beaucoup. Qui va sortir sur PS4, PC, Switch et One. Qui s'appelle Blazing Chrome. Donc qui va être qui a été
Blazing Firefox.
Non, pardon. Blazing Chrome. C'est presque. Oh, je viens de comprendre la blague. Oh, bravo.
T'as mis un peu de temps.
Ouais, mais je suis fatigué. Je suis fatigué, patron.
Oh, prends un café.
Alors, c'est un jeu qui est édité et développé par The Arcade Crew et Joe Mazur. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un jeu un peu d'arcade. C'est un run and gun. Alors pour ceux qui ont raté la dernière émission pour l'émission de Burger Game, un run and gun, c'est vous êtes en ligne droite et vous tuez tout ce qui bouge. Donc je le répète.
J'aime bien le principe.
Donc je le répète, va sortir sur PS4, PC, Switch et One, donc sur à peu près toutes les plateformes, sauf il manque en fait que les Android iOS, et qui sort le 11 juillet 2019.
On dit iOS. Hein.
On s'en fout. Qui sort le 11 juillet 2019, donc à savoir, à la date de sortie de l'émission, le 6 juillet, dans 5 jours.
Donc juste avant Dragon Quest Builder 2.
C'est ça, la veille de Dragon Quest Builder 2. Alors, la petite histoire, d'après ce que j'ai compris sur le site officiel. On a le droit à deux persos, Mavra, une humaine de la Résistance, et Doyle, un robot rebelle, qui décide d'aller botter quelques culs métalliques, parce qu'en fait, l'humanité est sous l'emprise d'une dictature de robots, qui a pris le pouvoir global dans tout le monde, et du coup, en fait, ces deux-là, donc Mavra et Doyle, leur but, ça sera de libérer l'humanité. Le graphisme, bah, on a déjà vu ça dans quelques jeux, récent, c'est on fait un petit retour aux origines et hop, on passe dans la 2D. Mais là, c'est du coup, on repasse en 2D en mode bord d'incarne. Donc, je dirais plutôt années 80, fin 80, début 90.
Ah ouais, quand même.
Je pense, petit graphisme, je sais pas si je me trompe vraiment, mais c'est pour que vous voyez un petit peu les graphismes pour ceux qui ont connu les bords d'arcane. Alors, il y a la possibilité de jouer jusqu'à deux. Hein, chaque joueur prendra un personnage.
Donc, en mode coop.
C'est ça. Vous avez plusieurs vies chacun, je crois que vous pouvez monter des vies, mais à la base c'est comme dans les bornes, enfin comme dans la plupart des jeux sur console, vous commencez avec plutôt 3 vies. Et donc en termes de niveau, bah, c'est un run and gun, donc c'est assez classique, hein. Ça va être, vous commencez par tuer les sbires, après vous allez avoir des semi-boss, j'ai envie d'appeler ça comme ça, donc des sbires un peu plus résistants, qu'il va falloir un peu plus de doigté, de technique pour tuer, et puis après vous passez à des boss... Et une fois que vous avez tué le boss, vous passez à un autre niveau, etc. etc. Je sais pas en combien de niveaux ça va être, mais ça a l'air d'être un jeu qui est en développement depuis un petit moment déjà. Donc, qui avait été annoncé il y a un petit moment. Je confonds avec un autre jeu. Mais il a été annoncé il y a un petit moment. Et apparemment, John Master, qui est le développeur, ont annoncé qu'ils allaient bien pouvoir sortir ce jeu en temps et en heure. Donc normalement, il devrait bien sortir le 11 juillet, et de toute façon, ils ont pas trop le choix, parce que le jeu est censé sortir dans 9 jours au moment où on enregistre. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse comme moi, je pense que je vais jouer, ça peut être un bon... pas un bon défouloir, mais un bon petit délire, surtout si jamais je trouve un pote pas avec qui jouer.
Moi je préfère, ça évite que tu me tires dessus.
Ouais, pour de vrai, c'est vrai que je fais ça. T'es toujours pas mort d'ailleurs.
Ouais, non, il résiste bien.
Ouais.
Mais du coup, on a une transition toute trouvée pour la prochaine.
Bah, si personne n'est effectivement quelque chose à rajouter, je propose à ce qu'on passe à Wolfenstein Youngblood, qui apparemment sera un jeu de tir présenté par notre cher et grand ami et présentateur Typo.
Oh, je suis plus le présentateur pour cette émission.
Ouais, Typo.
Donc... donc Wolfenstein Youngblood.
Typo.
Donc Wolfenstein Youngblood, c'est les Wolfenstein qui ressortent, enfin qui ressortent, la licence qui ressort des jeux. Je ne sais pas si, alors nous on est assez jeunes, moi j'ai connu très rapidement, enfin j'ai pas connu tous ces jeux, enfin au moment où c'était sur 64, j'ai eu les consoles très tard, et par contre chez moi il y avait un vieil ordi sur Windows 3 ou un truc comme ça, ou 98 peut-être, un truc comme ça.
98.
Et il y avait Wolfenstein dessus, qui était mais magnifique comme jeu. On avait même le joystick pour pouvoir jouer avec. Et c'était un espèce de labyrinthe où bah, des fois, tu ouvrais les portes et puis il y avait les gardes derrière qui arrivaient en zigzagant. Donc, ça te laissait le temps de l'essayer de les tirer parce que les jeux, enfin, le contrôle était beaucoup moins rapide que maintenant. Donc, voilà. Ils ont ressorti des Wolfenstein avec de la... J'ai presque envie de dire un truc, un mode Rambo. En fait, en quelque sorte, grosse artillerie. Je suis un peu triste parce que je préférais un peu le côté simple que ça avait. Et là, ça revient un peu au jeu de. Enfin, c'est pas très. Pas très original.
Ça fait bourrin, quoi.
C'est... Ouais, il y en a déjà plein des jeux comme ça. Et j'ai juste l'impression de sortir un jeu là-dessus avec la licence Wolfenstein dessus. Ah, jeu, j'ai vendu. Allez, hop, suivant.
Enfin, ouais,
ça, c'est mon avis personnel. Mais quand même, pour la nostalgie, je tenais à en parler. Et pour l'histoire aussi, je trouve ça marrant, parce que ça reste dans le reboot qu'ils ont fait en 2009. Et le reboot de Wolfenstein, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et ben, en fait, très simplement, en 1940, on a perdu la Seconde Guerre mondiale, et c'est les nazis qui l'ont gagné. Et donc, on se retrouve dans une espèce de on se retrouvait dans un des jeux qui est sorti il y a un petit moment, dans un Paris avec des dirigeables, etc., mais contrôlé par les nazis, et là, on se retrouve en 1980, avec toujours des nazis, et toujours des nazis à dégommer. Ça fait plaisir, on déglingue des nazis, et voilà. Rien de plus à dire, à part que ça sort sur PC, PS4, One et Switch, le 26 juillet, donc en même temps que Fire Emblem. Je pense, choisissez Fire Emblem. Mais si vous n'avez pas la Switch, choisissez Wolfenstein Youngblood. Hein, voilà.
Si vous êtes riche, choisissez les deux.
Non, aussi. Si vous êtes riche, choisissez tous les jeux. Touche.
Et puis on vous engage pour que vous les testiez.
Ça, il n'y a pas de problème, on vous engage. Puis c'est vrai que là, je viens de remarquer, mais là, les trois derniers jeux dont on a parlé, ça veut dire on va enlever Blazing Chrome, il me saoule. Wolfenstein Youngblood, Fire Emblem et Dragon Quest, c'est quand même des jeux qui ont une licence assez vieille. Hein. Le Fire Emblem, par exemple, c'est sorti dans les années. Les premiers sont sortis dans les années 90, à ce que je vois. Donc ça fait 20 ans. Non, ça fait presque 30 ans que ça existe.
Bon, je sais, c'est pareil.
Les Dragon Quest, ça fait un peu plus de 30 ans aussi. Et les Wolfenstein, je crois aussi que ça dure ça. Je crois que c'était dans les années 85 qu'ils ont sorti le premier. Et que ça vient d'un jeu d'arcade aussi. Donc c'est... non, quand même, les vieux jeux ont la peau dure, j'ai envie de dire.
Mais du coup, par contre, je vous conseille le Wolfenstein de Windows 98, si vous avez arrivé à le trouver. C'est un petit bijou. Voilà.
Au pire, sur émulateur, ça se trouve.
Ouais, si vous arrivez à le trouver. J'ai pas précisé par quel moyen.
Oui, bon, après, entre Harry Potter en moyen pas légal, on peut continuer là-dessus, hein, y a pas de souci.
Il y a des émulateurs très bien qui sont pas très chers, voire gratuits. Hein. Pas besoin de tomber dans l'illégalité. Bon, je propose qu'on reste un petit peu dans cette noirceur de l'illégalité, de l'obscurité, pour passer aux sorties remarquables. Et eh ben, je vous propose une sortie remarquable qui, moi, en tout cas, a attiré mon regard. Je pensais presque même en parler dans les sorties du mois, dans les plus attendues. Qui sera, alors, c'est un petit jeu qui s'appelle Sea of Solitude, qui a été annoncé à l'E3 2018. Donc, ça, c'est celui-là auquel je pensais. Ça commence à remonter.
Ah oui.
Et qui est sorti hier. Pour rappel. L'émission sort le 6 juillet 2019, donc il sort le 5 juillet 2019 sur PS4, One, PC. Alors, je ne suis pas spécialement plongé dans l'histoire, mais j'ai essayé quand même de vous trouver un petit résumé. Alors, apparemment, ça serait l'histoire de Kei. Je ne sais pas si je prononce bien, parce que ça doit être un truc asiatique. Donc, Kei, c'est une jeune fille dans un monde qui est entièrement immergé par l'eau. Je précise, parce qu'il y en a qui pourraient croire que c'est autre chose. Donc, qui est entièrement immergé par de l'eau. Et en fait, qui est remplie de monstres, de monstres et de démons. Et en fait, elle-même se transforme petit à petit en démon, enfin démon-monstre, et son but sera de découvrir le monde, tout en essayant de garder sa sainteté d'esprit, et de comprendre pourquoi elle aussi se transforme en monstre, puisqu'apparemment, à la base, elle n'en était pas un. Voilà, d'un point de vue graphisme, moi j'aime beaucoup, c'est un graphisme un peu en mode cartoon, et j'ai aussi appris en cherchant un petit peu qu'en fait, on verra des monstres, notamment un monstre aquatique qui essaye de tuer Kei. Et en fait, ces monstres symboliseraient, les développeurs ont essayé de faire en sorte que ces monstres symbolisent en fait des émotions négatives qui sont liées à la solitude. Mmh. C'est très gay et tout ça. Okay. Mais c'est un jeu qui m'a l'air d'être assez intéressant, autant par son univers que par son, enfin, pas son gameplay, mais son histoire et son histoire. Mais du coup, je vous propose de rester un petit peu dans le.
Je parle des trois prochains si tu veux, rapidement.
Bah, tu vas le faire là. On va commencer par le plus obscur, FF14 Shadowbringer par Typo.
Ah non, mais en une minute, t'as même pas besoin de les annoncer en fait. Juste à savoir qu'il y a FF14 qui va sortir un joli petit DLC qui s'appelle Shadowbringers, qui est déjà précommandable avec déjà les collections, collector édition, etc. Enfin, allez voir directement sur le site. Ça, c'est en vente à partir du 2 juillet. Donc, normalement, c'est déjà en vente. Ah, mais c'est même en vente aujourd'hui puisqu'on est en train d'enregistrer. Donc, voilà, disponible. Pas besoin de vous présenter FF, hein, de toute façon, sinon les autres, enfin Nighties et Stalas qui sont à fond sur FF, vous le présenteront.
FF Streamer.
Non mais FF qui est connu, il n'y a pas besoin de présenter. Voilà.
Tropico 6 qui sort sur la One le 6 juillet. Il était sur plein d'autres plateformes déjà, PS4, etc. Il sort sur la One le 6 juillet, donc à noter. Tropico 6.
Il sort aujourd'hui, quoi.
Ouais, c'est ça. Et on contrôle en gros on est un peu le El Presidente et on contrôle notre régime. C'est un petit jeu de gestion. De jeux de gestion.
Let's play sur le bazar du grenier.
Ouais, c'est ça. Et sympa, let's play narratif d'ailleurs.
Si, ils sont en train de faire la saison 2.
Oui. C'est un let's play narratif, c'est ça. Et enfin, cet été, on sait pas trop quand, mais du coup, je l'ai mis là parce que possiblement ce sera au mois de juillet, possiblement au mois d'août. Pokémon Master. On n'a pas parlé lors de la précédente émission E3 qui faisait E3 et Nintendo et Pokémon Direct. Parce que c'était pas dans le Pokémon Direct, ils l'ont annoncé, je crois, avant le Pokémon Direct. Donc juste à savoir qu'il va y avoir Pokémon Master qui va sortir en très gros, qu'est-ce que ça va être ? On va pouvoir combattre tous les meilleurs tous les champions d'arène, de ligue, etc. de tous les Pokémon. Et chose la plus étonnante qui soit, ça a l'air d'être un mode solo. J'aurais pensé à un mode multijoueur vu comme ça a été vu le succès de Pokémon Go, etc. Et ça a l'air d'avoir une histoire solo, etc. Donc à voir, mais étonnant. Mais pourquoi pas, écoutez. Voilà, j'ai fini. Sur Android et iOS, bien sûr.
Je vous propose de passer un petit peu sur les petites news. Moi, j'en ai une seule rapide dont je veux parler rapidement.
Je crois qu'on a plein de petites rapides, en fait.
Bah, moi, j'en ai une petite rapide pour ceux qui sont fans de THQ Nordic et de Darksiders. Je pense que ceux-là ont déjà l'info. Mais THQ Nordic a annoncé un peu avant l'E3 la création et le développement du jeu Darksiders Genesis qui aura lieu bien avant l'univers qu'ils sont en train de mettre en place avec la trilogie des Darksiders. Donc on pourra jouer Strife et War, donc on pourra enfin incarner le dernier des quatre cavaliers. Et dont on aura pour mission, enfin qui ressemblera à un hack and slash. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un hack and slash, je vous conseille d'aller écouter l'excellent épisode Burger Game 1 où je me fais un plaisir de faire un résumé de ce style de jeu en parlant de Warhammer Chaosbane. Donc voilà, ça sera un hack and slash où on pourra jouer Strife et War. Pour le moment, pas trop d'infos, ils ont levé la pédale sur ça. Et je voulais le caser dans cette petite émission étant donné que ça fait pas longtemps qu'on en parle. Ensuite, Typo a quelques infos aussi sur la PS5.
Non, non. Tu avais... Enfin, c'était pour toi, à la base, la PS5.
Ah, d'accord. Bon, bah alors...
Parce que c'est toi, quelques... monsieur Sony, qui crache sur Sony d'accord. d'habitude, donc.
D'accord, bah là, on va cracher.
Mais c'est génial, Sony. Oh.
Bon, enfin, non, sinon, beaucoup... vas-y, je peux en parler.
Non, vas-y, je m'en occupe. Alors, tu rajouteras si j'oublie des trucs. Alors, on a un peu d'infos sur la PS5, notamment qu'en fait, ça va être une console qui va être Alors, ça fait un peu peur. Pour le moment, elle ne sera que 4 fois plus puissante que la PS4. Je dis pour le moment parce que c'est une console dont on n'a pas encore d'annonce officielle. Et qui n'a... Enfin, très peu d'infos officielles ont été annoncées. Et que surtout, elle est encore en cours de développement. Donc la puissance actuelle n'aura très certainement rien à voir avec la puissance qu'elle aura à sa sortie. Petite information quand même, ça sera une suppression des temps de chargement dans les jeux. Qui va faire du bien à des joueurs comme moi qui n'aiment pas les temps de chargement.
Ouais, alors ça, je ne suis pas sûr que ce sera dans la PS5 parce qu'ils ont juste déposé un brevet. Mais il y a de fortes chances.
Ouais, mais je pense qu'ils vont s'en servir. S'ils s'en servent pas pour la PS5, ça sera pour la PS4. Je pense que ça sera.
Ça sera pas pour la PS4, c'est pas possible.
Mais de toute façon, ça sera une technologie qui sera
très.
Ça sera très. À mon avis, je pense que ça va être quand même de toute façon une technologie qui sera très vite mise en jeu dans les.
Alors par contre, très gros warning. Parce que. Je me rappelle d'avoir fait un exposé en école en management qui comparait un peu les consoles en fait. Enfin, le résultat des consoles. Donc on avait fait le constat, la PS2 était très bien sortie, on était très bien sorti, etc. La PS3 s'était complètement cassé la gueule parce qu'ils avaient fait un logiciel et du hard en fait qui était très très dur à programmer. Et du coup les éditeurs ont eu du mal à s'y mettre. Donc si jamais leur brevet sur la suppression de temps de chargement demande de la programmation différente et des trucs comme ça, ils risquent que de se casser la gueule encore une fois avec les éditeurs et de pas avoir beaucoup d'éditeurs à part ceux qui font que de la PlayStation et pas avoir beaucoup de portage.
Ouais, c'est vrai, mais est-ce qu'on n'avait pas parlé dans l'épisode spécial Burger Game D3 l'enlèvement déjà des cinématiques Star Wars Jedi Fallen Order?
Non, alors dans Fallen Order, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé les temps de chargement, mais en fait, ils ont pas mal. Mais je crois qu'il en reste petit en fait, mais qu'ils ont pas mal galéré sur le fait qu'ils ont des transitions qui vont de la gauche vers la droite en fait, et parce qu'ils doivent charger deux trucs en même temps. Donc ils ont pas mal galéré. Ils vont galérer. Donc pour tous les autres jeux avec les graphismes qui vont être encore plus haut, j'ai peur. Mais bon, on verra bien.
Et on verra bien. De toute façon, on verra bien dans l'avenir. Bon. Moi sur la PS5 j'ai pas grand chose à dire, mis à part qu'apparemment ils se concentrent beaucoup sur les graphismes.
C'est la politique de PlayStation, après c'est ce qu'on disait.
Ouais, ouais, c'est ce dont on parlait aussi avec Typo quand on a regardé les news. C'est vrai que les gros constructeurs n'ont pas l'intérêt de voir les graphismes à la baisse, étant donné que c'est vrai que certains joueurs ça peut les rebuter. Personnellement, ça fait pas partie de mon cas.
Enfin, je
pense pas que j'achèterais une console parce que les graphismes sont à couper le souffle. Après, c'est vrai que ça va faire un avantage commercial relativement bon, mais.
Ouais, mais ou pas, regarde la Switch. Qui se porte merveilleusement
bien.
Elle
porte pas de la Switch.
Ouais, mais elle se porte merveilleusement bien.
Et la Switch se porte
sans
bien.
Sans les graphismes. Donc.
Le principal, c'est les jeux qu'il y a sur la console.
Ouais.
Ouais, moi c'est surtout ça que je pensais. Après la Switch, y a pas des graphismes non plus dégueulasses.
Ah non, ils sont pas dégueulasses, mais c'est sûr que quand tu compares, oui, bah forcément.
Voilà, on peut comparer par exemple des jeux qui sont maintenant sur Switch et sur PS4. C'est vrai que moi, d'un point de vue graphisme, beauté, donc relatif à mes critères, c'est vrai que je préfère les graphismes de la PS4 qu'à ceux de la Switch. Mais après, ça reste des jeux intéressants à jouer, c'est vrai.
Après, le plus gros problème, je trouve, c'est que comme généralement c'est des portages, c'est pas ouf parce qu'ils baissent les graphismes. En fait, ils baissent la qualité des graphismes. Ça avait été pensé pour. Alors que quand tu regardes Zelda, je trouve que ça passe clair et ça vaut largement à The Witcher 3 par exemple. Mais vu que ça n'a pas été programmé dans le même sens, et bah, oui. Sur The Witcher 3, ils sont obligés de baisser la qualité. Je pense que c'est ça aussi.
Moi, je propose qu'on reste sur Nintendo. Je crois que tu avais quelques infos dessus.
Ouais, ouais, ils se sont prononcés il n'y a pas longtemps. En fait, ils ont une conférence de presse. Alors, il y a beaucoup de rumeurs qui partent sur une Switch Mini, une Nintendo Switch Mini avec des Joy-Con non détachables, donc plus petites. Nintendo n'a pas démenti. Ils ont encore une fois été très bons dans leur communication, je trouve.
Ouais, très vague, je pense.
Ouais, mais pas tant que ça. Ils étaient là en mode... on peut pas vous dire si on est en train de travailler sur une Switch Mini parce que ça serait très mauvais pour l'argent et pour les actionnaires. Parce que ça pourrait faire chuter les bourses, etc. Enfin bref, c'est des détails trop compliqués pour nous. Mais d'un autre côté, mais par contre, on travaille toujours sur de nouveaux matériels. Donc c'était un peu, on peut pas vous le dire officiellement, mais bien sûr qu'on y réfléchit.
Puis, voilà. Il y a tous les accessoires qui sont déjà précommandables sur certains sites, donc.
C'est pour ça que les grosses rumeurs comme ça. Mais ils l'annoncent pas officiellement. Donc et puis je pense que ça fait partie aussi du fait de faire monter l'hype chez les gens. Après, les gens l'attendent ou l'attendent pas, mais c'est toujours les rumeurs. Si c'est bien contrôlé, ça permet toujours de faire monter cette hype un petit peu, de faire parler de la chose et du coup de faire grandir ça. Ensuite, ce dont on a parlé longuement dans la fin de la dernière émission BurgerGram sur E3, le scandale Pokémon. Ils y ont répondu. Malheureusement, ils y ont répondu en disant que c'était pas possible, que ça leur fendait le cœur aussi de pas pouvoir mettre tous les Pokémon, parce qu'il faut pas l'oublier finalement, qu'eux aussi c'est les gros fans de Pokémon et qu'ils peuvent pas mettre tous les Pokémon dans les dernières versions de Pokémon Épée et Bouclier. On pourra pas tous les capturer, mais ils pouvaient pas le faire pour des raisons d'équilibrage, etc., de temps de développement. Je suis quand même toujours triste, je pense toujours qu'un joli petit DLC, même si ça arrive 5 mois après, ce serait vraiment pas mal. Ça veut pas dire, après ce qu'ils précisent, c'est que ça veut pas dire que si votre Pokémon préféré n'est pas dans ces versions-là, il pourra être dans le prochain. Mais bon, c'est un peu dommage, mais bon, on fera avec, hein. Et enfin, une dernière, mais là c'est vraiment un état de rumeur, ils n'ont pas vraiment parlé. C'est que peut-être qu'on verrait arriver des jeux GameCube et N64 sur la Switch. Alors, soit en portage avec un prix à payer pour chaque jeu, soit ce qui semblerait le plus probable, mais c'est que des rumeurs, donc à prendre avec des pincettes, possiblement un abonnement Nintendo Switch Online Premium avec la possibilité de pouvoir jouer à des jeux GameCube et 64 dans cet abonnement-là. Donc à partir du moment où vous n'avez plus cet abonnement, vous ne pourrez plus y jouer. Vous ne les posséderez donc pas les jeux, mais vous pourrez les avoir comme ça. Donc pourquoi pas. Le seul truc dont j'ai peur, c'est qu'il faille peut-être une connexion Internet pour pouvoir y jouer, donc tu ne pourras pas y jouer en mode nomade dehors. Et donc autant ressortir sa GameCube ou sa Wii, ou sa N64.
Ah mais du coup, ça serait quoi? Est-ce que ça serait en mode un peu émulateur peut-être? Ou un truc un peu plus travaillé en mode remaster?
Non, plus émulateur. Comme ils ont fait sur Nintendo Switch Online, là t'as la NES et t'as les jeux NES qui sont disponibles. Donc ce serait un peu ça. Ce serait un émulateur sur la Switch qu'ils ont fait eux-mêmes et qui te permet d'accéder à un catalogue défini de jeux. Je pense.
Ouais,
c'est des rumeurs.
Ça peut être pas mal, effectivement. Bon, après, c'est encore à l'état de rumeur. Je pense qu'on va essayer de se tenir un petit peu informé sur ça pour essayer de vous donner des plus d'informations quand on en aura.
Je pense qu'on n'en aura pas avant le mois de décembre, enfin la fin de l'année, avant la fin de l'année, je pense, là-dessus. Ça viendra pas tout de suite.
Ok, très bien. Puis après, moi, tu m'as parlé aussi d'une petite lettre qu'auraient fait les grands constructeurs.
Ah, ouais, alors ça, c'est le petit truc. C'est pas une news incroyable, c'est rien de très spécial. Mais vous n'êtes pas sans savoir que en ce moment Trump fait la chasse, fait une grosse politique de une politique conservatrice sur les produits, sur l'exportation, sur l'importation surtout, mettre des grosses taxes, etc. Enfin, pour faire en sorte que tout le monde produise aux États-Unis et plus chez les Chinois. Hein. Le seul problème, c'est que Nintendo, Microsoft, Sony, toutes leurs consoles, elles sont fabriquées en Chine. Ils ont tout délocalisé en Chine, et que si jamais ils délocalisent même pour faire revenir chez eux, les prix des consoles vont
ça
doubler,
va coûter bonbon.
Doubler, voire tripler. Et donc, ils ne peuvent pas se le permettre. Et donc, ces trois constructeurs ont fait une lettre commune, et ça, je trouve ça beau, Donald Trump, enfin, au gouvernement américain, donc à Donald Trump, pour expliquer que s'ils devaient faire ça, ça leur coûterait beaucoup plus cher, que les gens n'achèteraient plus, et que pour le bien des jeux vidéo, ils demandent une dérogation pour les consoles et les jeux vidéo. Donc, voilà. À voir la suite, après ça reste Trump. Il dit beaucoup de choses et des fois il revient dessus, des fois il revient pas, donc espérons. En tout cas, ça risque d'être compliqué pour les Américains. S'ils font ça, ça n'irait pas dans le bon, dans le sens des Américains et de redonner le pouvoir d'achat aux Américains.
Je pense que c'est comme beaucoup de ces politiques, hein, ça. Ça va se casser la gueule dans l'œuf. Je pense.
Mais ne parlons pas politique dans cette émission.
Non, parce que je m'y connais absolument pas et que ça va pas nous énerver.
Oui.
Bon, d'un point de vue news, je pense qu'on a fini. Moi, j'en ai pas vu de nouvelles, en tout cas.
Non. Il n'y a pas grand-chose en ce mois de juillet, on va dire.
D'accord. Bah, je pense que le mois d'août sera aussi un peu calme. Je propose de faire exceptionnellement une petite vision des derniers jeux, parce que NetEase s'est fait plaisir en achetant le Crash Team Racing qu'on a présenté lors du précédent Burger Game. Et puis je pense qu'elle peut nous...
Oui.
Elle va pouvoir nous en parler un petit peu. Alors qu'est-ce que t'en as pensé de ce CTR?
Je suis retombée en enfance, ayant adoré déjà les CTR sur les premières PlayStation.
Du haut de ses 56 ans. Aïe.
Et qu'on ne donnait pas d'âge.
Ouais, on donne pas d'âge, mais bon, je suis la vieille du groupe, on va dire. Mais donc, ouais, j'ai pris plaisir à le précommander, à le recevoir et à le tester pour vous, même si je n'ai fini aucun autre de mes jeux PS4. voilà. Et donc, ouais, j'ai testé. On a un mode histoire que j'adore.
Enfin, un mode histoire.
Il y a un mode histoire où tu choisis le personnage avec qui tu veux jouer et tu fais les courses dans un certain ordre pour les découvrir, pour te roder. Et en fonction de combien tu arrives, on va dire, sur la course, tu récupères certaines coupes ou autres qui te permettent du coup de débloquer des custos pour ton kart ou autre. Donc c'est assez sympa, tu peux jouer en solo, ce qui est bien. Comme tu peux jouer en multijoueur local ou en ligne, comme dans Mario Kart. Donc très sympa, j'ai pris plaisir à finir dernière, en galérant avec les dérapages et les turbos, parce que quand on n'a plus l'habitude
c'est galère.
De CTR, c'est la merde. Mais bon, ça revient lentement et franchement, je suis fan, toujours aussi fan, vive CTR. Voilà.
Et du coup, la question... Mario Kart ou CTR?
CTR!
Là, franchement, ça dépend, les deux. CTR pour la nostalgie, et Mario Kart parce que j'aime toujours Mario Kart.
Ouais. Alors moi, de ce que j'en ai vu à peu près, j'ai l'impression que Mario Kart, c'est un peu plus double, un peu plus accessible si vous jouez avec vos parents, qui sont pas très... ou grands-parents même, j'ai envie de dire, qui sont
oui,
pas très jeux vidéo. Mario Kart sera largement accessible par tous. Ils termineront peut-être dernier, mais ils s'amuseront quand même.
CTR, ils s'amuseront aussi.
Ouais, mais j'ai l'impression que les dérapages sont quand même beaucoup plus compliqués. Qu'il y a plus besoin de skill dans CTR.
Ouais, dans CTR, il y a besoin de...
Dans le kart, c'est un peu plus de la chance.
Il y a besoin de doigté dans CTR, ouais.
Ça, donc je pense que...
On en revient au doigté.
En mode famille, Mario Kart. En mode ami, on peut se risquer au CTR.
Ouais.
Et je crois que j'avais vu un autre truc un peu plus gênant. C'est que sur CTR, le online n'est pas ouf. Parce que t'as pas de classement.
Oui, mais ça doit venir dans une mise à jour, à ce qui paraît.
Ok, d'accord. Bon, tant mieux. Ce qui est un gros avantage dans Mario Kart.
J'en ai entendu parler, en tout cas.
Ok. Est-ce que j'avais d'autres choses en comparaison?
CTR.
Et CTR, c'est beaucoup plus de skill et moins de chance à cause des objets. Parce que les objets ont l'air de plus s'avantager. Alors que Mario Kart, tu peux très bien passer une course en partant premier, en terminant premier sans que rien toucher. Ou faire une course en passant premier pendant deux tours.
Et en
terminant dernier en trois virages, en prenant une suite d'objets interminables.
Ça sent le vécu.
Oui.
Ça sent le... Non, je crois que j'ai pas terminé dernier, mais j'ai perdu plein de places. Ouais.
Oui, c'est régulier. Non, ouais, CTR, je crois que les objets, après, en fonction de ton nombre de dérapages, des nombres de pommes que tu récupères, t'as tes objets qui changent. Plus puissants, moins puissants, ça dépend. Mais c'est sympa.
Et puis CTR, c'est sur les autres consoles que la Switch. Donc si vous n'avez pas de Switch ou de console Nintendo,
ouais, c'est
pas
sur
de
Mario Kart. Mais c'est vrai que c'est...
CTR est sur la Switch.
Tiens, ouais. Bim, dans ta face.
Non, mais Mario Kart, par contre, est que sur la Switch. Et
oui,
sur les autres
bon.
Consoles Nintendo. Donc si vous n'avez pas, passez sur CTR, ce sera très très bien.
Et puis ça, c'est...
Oui. Vous amuserez énormément.
Et puis c'est pas très long de récupérer un peu de skill. Après, on n'est pas obligé de faire des dérapages non plus.
Oui, c'est ça. C'est bien de savoir les faire dans certaines courses, mais on peut se démerder, genre.
Ok.
Bah super, donc CTR, une petite note peut-être?
Non mais pour moi, CTR, c'est 10 sur 10. C'est nostalgie, les délires avec les cousins quand j'étais gamine, et puis je retrouve mon CTR, donc je suis contente.
Donc un bon délire, on a bien fait de le conseiller.
Oui.
Ok, super. Thibaut, je crois que... Alors, pour ceux qui... Attendez, je vais introduire un petit peu. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, dans le dernier épisode de Burger Game, l'épisode spécial E3, lors de la conférence de Nintendo, Thibaut a entendu quelque chose dans le trailer de Breath of the Wild 2. Qui veut absolument le faire partager. Malheureusement, l'épisode de Special E3 était un peu long, donc on a dû le couper.
Ouais.
Mais c'est maintenant son moment.
C'est ça. Alors avant d'en parler, du coup, on va continuer le teasing. Juste parler d'un petit bug qu'il y a eu récemment sur Zelda Breath of the Wild. Et en gros, on voyait quelqu'un qui arrivait à voir le fond des océans. Je vous invite à aller regarder sur Internet. Peut-être qu'on mettra un lien dans la news, etc.
Oui.
Et c'est extrêmement joli. L'océan est... peuplé, on voit bien les poissons, il y a des coraux, il y a des algues, enfin, c'est hyper joli.
Pas un seul Zora.
Pas tant que ça. Oui, mais enfin, c'est quand même, ils ont quand même travaillé ça alors qu'on le voit presque pas dans le jeu. Parce que quand tu vois dans l'eau, tu vois presque rien. Donc, pas mal. Alors, est-ce que ça voudrait dire que peut-être que pour le Breath of the Wild 2, ils utiliseront un peu plus tout ce qui est eau, parce qu'il y a à savoir que dans Breath of the Wild 2, Breath of the Wild 2, ils vont réutiliser la map. On modifie pas mal de choses, mais ils vont réutiliser la map, ce que je trouve normal. Ils ont pris un certain temps à la faire, donc autant utiliser tout ça. Donc Breath of the Wild 2, un petit résumé pour ceux qui n'ont pas vu, il a l'air beaucoup plus sombre, et on dirait que Zelda sera jouable, parce qu'elle a les cheveux beaucoup plus courts, donc beaucoup plus simple à animer, donc Persona peut être jouable. Et parce que dans le trailer qu'ils nous ont lancé, alors moi j'entends, Nighty j'entends un petit peu, celle-là ne s'entend pas du tout.
Tout du tout.
Quand on écoute le trailer à l'envers, on entend des petits messages cachés en fait. Quand vous l'écoutez à l'endroit, vous entendez la voix qui chante là, a fait un peu reverse. Je m'étais amusé déjà moi à écouter des trucs en reverse, c'était très drôle. Et donc ça m'a fait tilt à ça. J'ai écouté le truc en reverse et on entend deux petits trucs. Alors je vous laisse écouter deux petits extraits. Si vous voulez l'extrait complet en reverse, on vous mettra le lien dans la news et dans le YouTube. Je ne vais pas vous faire écouter parce qu'il y en a pour 1 minute 20. Mais juste les deux petits extraits. Voilà. Alors là, en fond, on entend un « Elle passe, elle passe ». Je peux vous le remettre parce qu'il ne dure que 3 secondes. « Elle passe ». Voilà. Et je vais vous le lire avant l'autre. Sur l'autre, on entend plutôt la voix très aiguë qui dirait « Oh Zelda, oh Link is gone, oh Zelda, find the body ». Donc « Oh Zelda, Link est parti, oh Zelda, trouve le corps ». Voilà, donc à vous de nous dire si vous entendez la même chose que moi, si je suis complètement cinglé. En tout cas, moi, je trouve ça extrêmement fort. J'ai cru lire quelque part que les Japonais avaient répondu en disant qu'il n'y avait pas que ça de caché dans le trailer, mais j'ai trouvé que des articles en anglais, pas beaucoup en France, voire zéro. Donc, peut-être une vraie news, peut-être une fausse news, j'en sais rien. Bon, en tout cas, moi, je prêche quand même sur le Zelda jouable, quoi qu'il arrive.
Ça serait cool quand même.
Ouais, enfin, un petit.
Depuis voilà. Le temps.
Ouais, autre part que dans les Hyrule Warriors.
Voilà. Et un Breath of the Wild 2, beaucoup plus sombre, un peu à la Majora's Mask. Donc j'ai très hâte. Et bon, il sortira pas maintenant. Je pense que Metroid Prime sera même sorti avant.
Donc c'est vrai que pour les voix, moi, c'est vrai que c'est pas que j'entends rien, c'est que j'entends pas ce qu'entend Typo. J'entends quasiment rien, c'est vrai. Mais après, moi, ça ressemble plus à un Oh My God. Après. Je pense que Typo a plus raison que moi, il a peut-être plus l'habitude, plus l'oreille. Nighties aussi, je pense. Et...
Non, mais il y a des mots au milieu, je suis pas totalement sûr, mais...
J'entends deux, trois trucs, mais après, je suis pas sûr.
Le O-Link, non, le O-Zelda, je suis sûr, le Link is gone à peu près, et Find the Body aussi.
Le body, ouais.
Mais il y a des trucs au milieu, c'est pas trop ça, mais c'est ce que j'ai réussi à décrypter, et ce que disent d'autres personnes. Donc, pourquoi pas.
Après, pour mon oreille, c'est un peu trop aigu aussi, c'est pour ça.
Faut pas faire la fête comme ça, faut préserver ses oreilles.
C'est vrai, il faut préserver vos oreilles. Tu as compris, Stalas ? Bien, Stalas. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire pour ce merveilleux épisode numéro 2. Sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter ?
Vive les bananes !
Non, vive CTR !
Friend of my Pedro, je sais pas quoi. Là.
Bon, moi j'aime beaucoup Vive les bananes. Alors un petit résumé, nous avons parlé de Harry Potter Wizard Unit qui est sorti il y a 2-3 semaines, j'ai plus la date.
21 juin.
Ok, bah va pour le 21 juin. Dragon Quest Builder 2 qui sortira sur PS4 et Switch le 12 juillet. Fire Emblem Free House qui sortira le
26 juillet.
Super. Blazing Chrome qui sort un jour avant Dragon Quest Builder, à savoir le 11 juillet. Ensuite, un petit coup de Wolfenstein Youngblood qui sortira le
Wolfenstein, 26 juillet.
26 juillet. Si, dans les sorties remarquables, nous avons vu Sea of Solitude qui sortira le 5 juillet. Un DLC de qui est déjà sorti quand vous écoutez cette émission. Pareil pour FF14 Shadowbringer qui sort, qui est un DLC qui est sorti le, sorti à le 2 quand on enregistre. Tropico 6 qui sort le 6 juillet, à savoir aujourd'hui. Et Pokémon Master dont on n'a pas encore de date de sortie qui devrait sortir cet été. Je vous répète pas les news, elles sont un peu trop longues, mais en gros on a parlé un peu de la PS5 concernant ses caractéristiques et de la Switch, d'une possible Switch Mini. Un scandale sur Pokémon, donc attrapez-les pas tous, puisque tous les Pokémon ne seront pas disponibles dans ces boucliers épais, c'est ça les nouveaux
sites ?
Super. Et une rumeur sur un émulateur Switch GameCube Nintendo 64. Tipo nous a fait un petit coup de politique rapide sur une lettre envoyée sur par Nintendo, Microsoft et Sony au président Trump concernant sa loi conservatrice. Nous avons eu le droit à un magnifique petit résumé de CTR par Natiz. Donc pour ceux qui ne savent toujours pas, CTR c'est Crash Team Racing. Un petit easter egg bug trouvé par un joueur récemment, raconté par Tipo concernant les océans de Breath of the Wild. Et des voix dans le trailer de Breath of the Wild 2 et une possible, jouabilité de la princesse Zelda dans le prochain Breath of the Wild. Voilà, ça c'est bon. Un petit résumé rapide de l'émission. Et puis bon, il nous reste plus qu'à dire le mot de la fin. Je vous en prie, messieurs, dames.
Carotte.
Banane.
Ok. Bon pot au feu, en tout cas, mes amis. Et puis à très vite. Je vous souhaite une agréable après-midi, soirée, matin, douche, sexe oral, sexe anal, genre ce que vous voulez. Et puis on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode qui sera du coup l'épisode de 3 de TARDIS, si je dis pas de bêtises, qui sortira le 10, on avait décidé quoi,
juillet.
Le 21,
le
20 juillet. Donc il sortira le 20 juillet, on s'y met tout de suite et on vous dit à très vite.
Le grand pot au feu. Le grand pot au feu.
Bon appétit.
Générique.
C'était votre émission d'actualité jeux vidéo Burger Games spécial E3.